Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein, Jacques Chirac, l'un des seuls présidents de la République, de la Ve République, à avoir brisé la malédiction de la non-réélection.
À l'avoir partiellement brisé, puisqu'il ne l'a brisé qu'après une cohabitation et dans des circonstances en 2002 dont tout le monde se souvient, après avoir obtenu lui-même un mauvais score au premier tour, moins de 20%, mais malgré tout qualifié et élu triomphalement au deuxième tour avec plus de 80% des voix contre Jean-Marie Le Pen.
Et c'était le cas également de François Mitterrand qui a été réélu au sortir d'une cohabitation. Natacha, est-ce qu'on peut imaginer que c'est quelque chose que le président de la République, Emmanuel Macron, a en tête ?
Oui, on peut évidemment imaginer qu'il a pensé et repensé le fait qu'il pourrait peut-être être le seul à être réélu en dehors d'une période de cohabitation, ce qui, là aussi, signifierait que le paysage politique français a largement bougé. Mais enfin, ça va faire partie des discussions que nous allons avoir.
Évidemment, puisque nous allons commencer avec l'actualité et cette situation qui, pour le coup, occupe très certainement le président de la République actuel. Cette situation toujours extrêmement tendue, vous le savez, aux frontières de l'Ukraine. Plus de 130 000 soldats russes sont massés de l'autre côté de la frontière et des manœuvres de l'armée russe d'une ampleur sans précédent. Jeudi, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, était l'invité de la matinale de France Inter.
Lorsque vous avez 125 000 hommes à la frontière russo-ukrainienne, lorsque vous avez des grandes manœuvres en Bélarus et en mer Noire avec des manœuvres navales très significatives, oui, il y a de quoi être inquiet, la situation est très grave. Poutine, il a les cartes en main, ou bien il se considère comme une puissance de déséquilibre, ou bien il se sent comme constructeur d'un dialogue et d'une désescalade. C'est à lui de jouer, c'est à lui de dire les choses.
C'est à lui de dire les choses, on a le sentiment qu'il faudrait même aller plus loin et dire c'est à lui de décider, Natacha ?
En tout cas, il a une grande part des cartes en main et ce qu'il a dit lors de la conférence de presse donnée avec Emmanuel Macron était très clair quand il a expliqué qu'il considérait que ce n'était pas la Russie qui s'étendait vers l'Ouest en tentant d'occuper l'Ukraine, mais que c'était l'OTAN qui s'étendait vers l'Est. Là, il y a en effet le nœud du problème. Il faut bien comprendre que après 1989, la question qui se pose, alors d'abord les États-Unis, l'OTAN s'était engagé en fait à laisser à la Russie son cordon sanitaire. La Russie a l'obsession de ce cordon sanitaire, de cet ensemble de pays qui lui éviterait d'avoir des ennemis à sa frontière, parce que la Russie est un pays qui n'a pas de frontières naturelles et qui craint les invasions. Et donc ce pacte tacite a été rompu de fait, et après 1989 se pose la question en fait du rôle de l'OTAN, de la nature même de l'OTAN. Quand Emmanuel Macron il y a quelques mois disait que l'OTAN est en mort cérébrale, c'est oui. Plus grave que ça, la question est de savoir pourquoi l'OTAN existe encore, dans quel but. Alors il y a évidemment cette alliance, mais il y a l'idée d'une possibilité d'agir si l'un des membres est attaqué. On voit bien que la présence même de la Turquie dans l'OTAN bouleverse totalement le sens que peut avoir cette alliance qui est censée être défensive. Et Vladimir Poutine se paye le luxe d'expliquer que, de fait, l'OTAN n'est absolument pas une alliance défensive. Donc la question à se poser, c'est est-ce qu'il existe encore un Occident ? Et je pense que tout le problème que nous avons en France aujourd'hui est de savoir si nous réussissons à penser le monde non pas avec un Occident face à un autocrate brutal, tout épouvantable qu'est Vladimir Poutine, mais les États-Unis qui sont une puissance avec ses intérêts et les pays d'Europe dont la France avec leurs propres intérêts.
Gilles Finkelstein.
Il y a une question avec l'OTAN, je crois qu'il y a un problème avec la Russie. Et donc je ne sais pas si c'est un point de décalage par rapport à ce que disait Natacha. Il y a eu cette conférence de presse après le voyage d'Emmanuel Macron en Russie et le rendez-vous avec Poutine. Je crois que c'était un voyage qui était courageux, au sens où Emmanuel Macron avait peu à gagner. Il était illusoire de penser que les choses pouvaient s'arranger rapidement. Les enjeux internationaux dans une campagne présidentielle sont secondaires et il n'a pas de stature présidentielle à construire, elle est là. En revanche, il avait et il a beaucoup à perdre. Il est clair que Vladimir Poutine ne peut que souhaiter sa défaite. C'était déjà le cas en 2017. On sait le rôle qui a été joué notamment par Russia Today pendant le mouvement des Gilets jaunes. Donc depuis son élection, Vladimir Poutine essaie de déstabiliser le président. Et c'était un risque que d'aller à quelques semaines du scrutin là-bas. Ça ne s'est pas mal passé. Est-ce que le voyage pour autant a été utile? Disons que dans le meilleur des cas, ça a permis de stopper l'escalade. Dans le pire des cas, cela n'aura pas changé grand-chose. Reste la question, l'autre question qui est celle de la Russie et de Vladimir Poutine. J'entendais sur l'antenne de France Inter cette semaine Dominique de Villepin dire que Vladimir Poutine était prévisible. Je ne sais pas s'il est prévisible. Le problème, c'est que je ne sais pas qui peut affirmer aujourd'hui avec certitude ce qu'il veut et jusqu'où il veut aller. Et donc, quand Jean-Yves Le Drian dit qu'on est dans une situation qui est une situation dangereuse, une situation même explosive, je crois que c'est le cas.
Un éditorialiste américain a résumé les choses avec cette formule : la guerre est imminente, mais elle n'aura pas lieu, elle est impossible.
Alors,
vous partagez le diagnostic ?
Disons que on peut comprendre pourquoi il explique ça. Elle ne peut pas avoir lieu dans le sens où, en tout cas, on se doute que les États-Unis n'engageront pas des soldats face à des soldats russes. Oui, bien sûr. Le problème est de savoir exactement jusqu'où on peut bloquer Vladimir Poutine. Sachant que Vladimir Poutine poursuit tout de même un but que l'on arrive quand même à définir. En gros, ce qui l'a rendu furieux est la révolution de Maïdan de 2014 et le basculement. Donc le pouvoir pro-russe a été chassé au profit d'un pouvoir qui était largement, non pas seulement indépendantiste, nationaliste ukrainien, mais pro-américain, évidemment, avec des liens extrêmement forts, des liens commerciaux, des liens au sein même du nouveau gouvernement. Et il y avait là, de la part de, on va dire, du clan occidental, quelque chose qui était un message évident adressé, qui était le fait que, à aucun moment, l'Occident, l'OTAN et donc les États-Unis ne renonceraient à aller jusqu'au bout de là où ils peuvent aller. Et quand Emmanuel Macron dit dans cette conférence de presse que l'OTAN va garder sa politique de porte ouverte, bien sûr qu'il ne peut pas dire autre chose. Mais cette politique de porte ouverte signifie en fait que l'on considère qu'il est normal de pousser l'OTAN et donc les intérêts américains jusqu'à la frontière. J'ajoute juste une chose sur ce que disait Gilles sur l'intérêt que pouvait avoir Emmanuel Macron en termes de politique intérieure. Oui, cette visite était courageuse. Oui, ça valait le coup d'y aller. Il fallait y aller. Après, il n'y a pas aucun intérêt sur le plan de politique intérieure, parce que certes, Emmanuel Macron n'a pas à construire de stature présidentielle, mais le message qu'il envoie en politique intérieure à tous les citoyens français, c'est: est-ce que vous imagineriez un de mes concurrents face à Vladimir Poutine, avec cette tension, cette brutalité de Poutine, etc. C'était évidemment ça aussi qui était présent.
Gilles Finkelstein.
Le problème de la Russie et de Poutine, son déchirement, est que l'Ukraine est choisie par référendum et par un référendum quasiment à l'unanimité, c'est-à-dire aussi bien sur la partie occidentale, européenne, la plus européenne de l'Ukraine, que sur la partie la plus russophile, de devenir un État indépendant. Et donc la source du problème est celle-là. Dès lors, aujourd'hui et pour la suite, parce que c'est une crise qui va durer, ça serait évidemment une erreur de ne pas continuer à dialoguer avec Vladimir Poutine, parce que il est là, parce que c'est un grand pays et un grand voisin. Mais je crois que ça serait une faute de s'illusionner à la fois sur sa fiabilité. Il a montré à plusieurs reprises qu'il tenait relativement peu ses engagements, et que ça serait une erreur aussi de s'illusionner sur la convergence de nos intérêts et de nos valeurs. Je crois qu'on est durablement dans une situation tendu avec la Russie.
Le duel continue ici à Valence, même si nous avons une table beaucoup plus petite que celle de Vladimir Poutine dans son salon de Moscou. On continue à débattre.
Le grand face-à-face XXL, le duel.
Faire en 30 ans de la France le premier grand pays du monde à sortir de la dépendance aux énergies fossiles et renforcer notre indépendance énergétique, industrielle, dans l'exemplarité climatique. En quelque sorte, reprendre en main notre destin énergétique et donc industriel.
Emmanuel Macron était en déplacement à Belfort jeudi. Il annonçait un vaste plan de relance du nucléaire civil, à la fois pour assurer l'indépendance énergétique de la France et le respect des engagements climatiques. Il a annoncé la prolongation des centrales en fonctionnement, la construction de nouveaux réacteurs EPR. Gilles Finkelstein, vous vouliez revenir sur ce moment décisif pour vous?
Oui, on pourrait dire, si on regarde l'histoire de ce quinquennat, c'est un coup dans le zig, un coup dans le zag, sur le nucléaire, sur l'industrie, sur EDF. On pourrait dire qu'il y a tromperie sur la personne, parce que c'est moins le président de la République que le candidat qui a parlé. Et lorsque Emmanuel Macron a annoncé des décisions, il a annoncé des décisions qui seraient prises s'il était élu. Mais si on s'attache au contenu, et je crois que c'est ça l'essentiel, parce que c'est un enjeu qui est absolument déterminant, je crois qu'il n'y a pas tromperie sur la marchandise. Et que c'était un discours très important sur un sujet qui est un des sujets les plus structurants. On peut d'abord commencer par une lecture technique de ce qu'il a dit. C'est un discours qui est ambitieux. Les ambitions qu'il affiche sont des ambitions élevées. Ça a été peu souligné, mais c'est le cas sur la consommation d'énergie à horizon 2050. Alors, pas tellement sur la réduction, hein, c'est en gros, ce qui est prévu, c'est que on change nos produits par des produits qui sont plus efficaces, on rénove nos logements et ça réduit la consommation d'énergie. Il ne va pas plus loin. En revanche, et Natacha y sera sûrement sensible, il s'inscrit dans un scénario dans lequel il y a une réindustrialisation du pays importante et donc une consommation plus importante. Donc ça, c'est le premier point, ambition sur la consommation. Ambition aussi, et ça c'est nouveau de la part d'Emmanuel Macron, sur la relance des énergies renouvelables. Très ambitieux sur l'énergie solaire, 10 fois plus que ce que l'on a aujourd'hui, très ambitieux sur l'éolien offshore et cette émission.
En mer,
cette émission était à Saint-Brieuc il y a quelques mois. On a vu la difficulté qu'il y avait à implanter des éoliens offshore. Donc là, on est sur une multiplication considérable avec 50 parcs. On n'en a toujours pas un seul. Plus prudent sur les éoliens terrestres dont on voit les difficultés d'implantation. Enfin, je termine sur cette lecture technique par un dernier point, celui qui a été le plus commenté. Ambitieux, et là pour le coup peut-être trop ambitieux sur le nucléaire, parce que 6 EPR de nouvelle génération plus 8 d'ici 2050, c'est un défi industriel pour EDF de réussir à produire à un tel rythme autant d'EPR, et c'est un défi y compris géographique, c'est-à-dire qu'il va falloir, s'il y en a 14, trouver peut-être des nouveaux endroits où les implanter.
Oui.
Donc là, peut-être que la barre a été mise un peu haut.
Natacha.
Alors, premier point, ce sujet rejoint le sujet précédent et il faut absolument le souligner. Ce qui fragilise l'Europe et rend si difficile le fait qu'elle prenne en main sa sécurité, c'est que les Européens ont des intérêts divergents. L'Allemagne a fait le choix du gaz et donc de la dépendance au gaz russe. Les États-Unis veulent vendre aux Européens leur gaz naturel liquéfié, d'où l'importance de supplanter les Russes et donc de les repousser dans leurs frontières. Et face à cela, la France avait un atout, le nucléaire. Pendant 20 ans, elle a négligé cet atout et nous le payons aujourd'hui. Et on peut se réjouir qu'Emmanuel Macron ait mis fin à ce déclin programmé du nucléaire français qui est un élément d'indépendance. Alors bien sûr, il est de bon ton de dire oui, mais nous n'avons pas d'uranium, donc nous, en fait, ce n'est pas une énergie souveraine.
Et que faire des déchets ?
Oui, d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que le problème du tout nouvel amour d'Emmanuel Macron pour le nucléaire, c'est qu'il a mis fin, il y a quelques années, au programme Astrid, qui était la 4e génération de nucléaire, justement celui qui utilise les déchets et qui les recycle, donc qui diminue la dépendance à l'étranger. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Alors, on peut se réjouir de cette volte-face. Encore faut-il regarder d'abord tout le temps perdu qui fait que nous avons perdu en savoir-faire et que donc remettre en route cette filière nucléaire va prendre du temps. Il va falloir maintenant non seulement la volonté qu'il a montrée, mais une forme de véritablement de un cap extrêmement clair. Deuxième point, quand on voit le choix, par exemple, de faire racheter les turbines Arabelle par EDF, on peut très sincèrement s'étonner. C'est-à-dire qu'il y a non seulement le fait qu'on a vendu Alstom pour 588 millions d'euros en 2014 et qu'aujourd'hui, on va le racheter 1 milliard 100 millions, ce qui est une aberration, ce qui est absolument consternant, mais en plus, Emmanuel Macron fait le choix de faire racheter les turbines Arabelle par EDF, c'est-à-dire par un distributeur et pas par un industriel. C'est un métier, l'industrie. Donc le risque, c'est d'avoir donc EDF qui ne veut pas de cela, qui y va contrainte et forcée, et qui risque de ne pas savoir manœuvrer. On peut déplorer cela. Donc on peut se réjouir qu'on reprenne enfin en main cette filière nucléaire. On peut se réjouir des investissements. Il faut rester extrêmement prudent parce que ce n'est pas parce qu'on proclame tout à coup un nouvel amour qu'on est constant dans cet amour.
Et la question de la transition énergétique, nous aurons évidemment l'occasion d'en parler avec notre invité Philippe Aguillon dans un instant. D'un mot, Gilles, avant de passer au prochain sujet.
Oui, peut-être d'un mot quand même. En fait, j'arrive à peu près au même résultat que Natacha, mais pas par le même cheminement. C'est-à-dire que je trouve que c'est...
Vous êtes d'accord, on va passer au prochain sujet.
Non, parce que le chemin est au moins aussi important que le but.
Je réfléchis, tout le monde médite ici dans le public. Est-ce que le chemin est aussi important que le but ?
Oui.
Oui.
Je confirme.
Le discours d'Emmanuel Macron, je partage en gros les orientations, mais moins pour des raisons stratégiques que pour des raisons climatiques. Alors moi, je suis assez agnostique sur le nucléaire. Mais dès lors qu'il n'y a pas d'autre solution, si on veut sérieusement obtenir la neutralité carbone en 2050, ce choix et des énergies renouvelables et du nucléaire me semble un choix équilibré.
Le duel continue.
Le grand face-à-face XXL, le duel.
On n'a pas de fébrilité, donc on n'a pas de raison de ne pas répondre aux invitations quand elles sont faites. Mais ce serait une campagne écolo avec un projet fort, cohérent. Et il n'y a pas de problème que chacune et chacun puisse venir dans notre projet. L'important, c'est de gouverner après et d'avoir un grand projet en cohérence.
C'était la voix de Yannick Jadot. Il était en meeting en début de semaine à Rennes. Et parmi toutes les candidatures à la présidentielle, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, Gilles Finkelstein, vous vouliez vous arrêter sur celle-ci en particulier. Pourquoi ?
Oui, il y a une sorte de mystère. C'est l'heure de l'écologie et il y a une panne des écologistes. Quand on regarde la hiérarchie des préoccupations, l'environnement est depuis maintenant des mois et des mois dans les trois premières préoccupations et les Français massivement ont le sentiment qu'il y a urgence à agir. Quand on regarde l'espace politique, le centre-gauche est en difficulté, il y avait un espace pour l'écologie et Yannick Jadot pouvait incarner une nouveauté, il avait fait un bon score aux élections européennes de 2019.
Donc, vous en parlez déjà au passé.
Donc, l'heure de l'écologie. Et pourquoi la panne des écologistes, en tout cas à ce stade de la campagne, on voit que la dynamique est à la baisse maintenant depuis des semaines et des semaines. Quand on a commencé notre enquête avec le journal Le Monde, le Cevipof, Ipsos et la Fondation Jean Jaurès, Yannick Jadot était près de 10%, il est aujourd'hui à 7% et même dans certaines enquêtes en dessous de 5%. Donc la dynamique est à la baisse, il garde une sociologie extrêmement déséquilibrée. Il a par exemple deux fois plus d'électeurs qui ont de 18 à 24 ans que d'électeurs qui ont plus de 60 ans. Il a deux fois plus de cadres que d'ouvriers. Il a deux fois plus d'électeurs qui ont le bac que d'électeurs qui ne l'ont pas. Donc il a une sociologie qui est très déséquilibrée et il garde une image qui est fragile, il n'a pas progressé sur la présidentiabilité, est-ce qu'il a l'étoffe d'un président, pour revenir au débat que nous avons eu précédemment, mais il n'est pas non plus un candidat considéré comme ayant une forte proximité avec les Français, et même sur est-ce qu'il incarne le changement, eh bien, c'est un résultat qui est moyen, donc on est dans ce paradoxe, l'heure de l'écologie, la panne des écologistes.
Natacha.
Alors, pour continuer sur ce que vient de dire Gilles, c'est assez intéressant de voir que ce qu'il a choisi comme mot pour incarner son programme, c'est réparer, protéger, préparer. Ce qui est tout à fait justifié. La dimension de protection est en effet fondamentale dans la demande des citoyens. Préparer, en effet, on veut se projeter dans l'avenir et pour ça, il faut réparer ce qui a été abîmé. C'est tout à fait, c'est intelligent, c'est bien. Et il y a pas mal de choses qui sont intelligentes dans cette façon d'essayer de penser une écologie qui soit une écologie positive, qui se projette dans l'avenir, qui évoque le bonheur collectif, qui évoque le bien-être. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas dénier à Yannick Jadot, c'est d'avoir compris que l'écologie ne pouvait plus s'enfermer dans une forme de radicalité qui relève plus du gauchisme culturel que de l'écologie. Donc ça, c'est tout à fait positif. Et en effet, le mystère, c'est pourquoi ça ne prend pas. Ça ne prend pas pour différentes raisons que vient d'énumérer Gilles. J'y ajouterai par exemple des phrases comme, pour revenir au sujet précédent, il n'y a que les dictateurs et l'extrême droite en France qui soutiennent le nucléaire. Bon, c'est une façon de prendre le problème. Et à mon avis, dans une campagne qui est pour une fois centrée sur un sujet comme le nucléaire, c'est assez intéressant de voir à quel point les écologistes ont du mal à comprendre qu'ils se sont enferrés là-dedans et que la demande sociale ne va pas vers la couverture de l'ensemble du pays avec des éoliennes et que finalement, dans lui qui a essayé d'intégrer cette dimension du bonheur et du bien-être dans son programme, proposer des paysages entièrement recouverts d'éoliennes ne relève pas de cela. Il y a des tas de petits paradoxes comme ça qui expliquent en plus de la difficulté de la posture présidentielle. Mais je crois que le cœur du problème, oui, c'est que la dimension protégée de son programme, quand on lit, elle n'apparaît pas. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté de sa part d'évacuer ce qui fait problème dans la société française aujourd'hui. Ça glisse dessus comme l'eau sur les plumes du canard. On a l'impression qu'il n'y a aucun problème de sécurité, que la Biélorussie n'a pas essayé d'envoyer des migrants comme armes pour déstabiliser l'Europe, qu'il n'y a absolument pas de problème dans l'école aujourd'hui, qu'elle n'est pas en train de décrocher et qu'il n'y a pas donc d'écart absolument scandaleux entre les différentes classes sociales du point de vue de l'éducation. Enfin, tout ça disparaît, je pense que les citoyens le sentent.
Gilles ?
Oui, peut-être d'un mot pour essayer de comprendre les causes. Il y a d'abord des causes, je crois, qui sont extérieures à Yannick Jadot. Je pense que plus que d'autres, il a besoin d'avoir une campagne dans laquelle il peut expliquer son projet. Or, il n'y a pas de campagne depuis maintenant des mois et des mois, donc c'est sans doute un handicap plus important pour lui. Et puis, il y a des causes qui sont internes. Je crois que son projet mérite d'être lu. Il est sur le site de Yannick Jadot, les 120 propositions. Il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait intéressantes. Le problème, sans doute, c'est que il a, depuis sa victoire serrée aux primaires, un peu désaxé sa campagne et qu'il parle trop aux militants d'Europe Écologie Les Verts et pas assez aux Français qui sont préoccupés par l'environnement.
Il n'a pas parlé comme Jacques Chirac, justement, devant un parterre de chefs d'État de la maison qui brûle et de nous qui regardions ailleurs, puisque, après tout, c'est lui qui a formulé l'une des phrases les plus chocs sur la question écologique, Jacques Chirac, et c'est uniquement en clin d'œil que je le dis, puisque nous sommes ici dans la salle Jacques Chirac, le parc des expositions de Valence qui vient d'être inauguré et qui nous accueille. Place au débat maintenant, toujours en public, avec l'économiste Philippe Aguillon.